Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Olivier Cherchour, avec Kevin Diaz, avec Jennifer Mendelevitch et notre invité Abby Bey, entraîneur du Red Star, promu en Ligue 2. Beaucoup de réactions hein, sur la chaîne YouTube de l'After. T'as Ismaïla Camara qui nous dit le Sénégal est fier de toi, Habib.
Merci voilà, beaucoup,
c'est notamment. Ouais, t'as 45 sélections avec le Sénégal.
Ouais, je suis 4 cannes. Très fier. Ouais, 4 cannes. Je suis très fier de mon pays également. Et de tous les gens qui m'envoient des petits messages très sympas. Mais je suis fier aussi de toute l'Afrique parce que c'est. L'Afrique adore le football et vous écoute beaucoup aussi. Vraiment.
Ah oui. On était sur place pour la Coupe d'Afrique des Nations. On a adoré l'expérience. Et puis, on nous a dit, venez plus souvent. Et puis, la CAN, bon, on n'a pas le temps d'en parler ce soir, évolue aussi.
Oui,
de plus en plus, quoi. En structure, en termes de niveau. Alors, une question sur ton métier d'entraîneur. Ça nous intéresse aussi de savoir comment tu construis une journée, toi. Hors jour de match.
Très, très simple. J'arrive à 7h45 au bureau. Il y a, en général, je suis pas le premier. Il y a toujours Faouzi Hamza, l'entraîneur des gardiens, qui est déjà là. Il y avait déjà Pierre Sage qui était déjà là avant qu'il ne parte. Mais en général, j'arrive, ouais, 7h45. On a déjà préparé la séance la veille. Donc, toutes les séances du jour sont préparées la veille. Le jour J, ça n'est qu'une revue d'effectifs en fonction des joueurs qui sont disponibles ou pas. Mais sinon, après, tout est fait et tout est calé avant. On sait exactement ce qu'on veut sur la trame de semaine en termes de travail. Ensuite, on a l'entraînement à 11h. Les joueurs arrivent à 9h30. Ils ont le petit déjeuner. Nous, ça nous permet d'aller installer, de un petit peu regarder les derniers détails.
Le petit déjeuner, tu l'as instauré, ça.
Ouais.
Un petit déjeuner.
En fait, ils doivent être là avant 9h45. Ce qui est bien, c'est qu'on l'a pas rendu obligatoire, mais tous les joueurs sont là parce que c'est un moment qu'ils passent ensemble et je trouve que c'est aussi une préparation à l'entraînement qui est très importante. Et pour un club de national, donner cette opportunité-là aux joueurs, c'est un vrai luxe parce que financièrement, ça coûte. Et les budgets sont pas illimités sur ces aspects-là. Et ça, c'est une vraie chose qu'on a mis en place pour que les joueurs soient préparés au mieux pour l'entraînement. Et puis après, on s'entraîne à 11h et on reste à l'entraînement jusqu'à 18-19h. L'important, c'est que nous, on revoit toutes les séances avec la vidéo. Donc, on vit les séances. Les séances sont filmées drone et avec la Spideo. Et derrière, on revoit toutes les séances, tout ce qu'on a travaillé sur les aspects tactiques et tout ce qu'on doit réguler sur le lendemain ou toutes les choses qui n'ont pas été acquises à travers ce qu'on travaille. Donc on essaye d'être le plus précis possible. En fait, quand on est arrivé, ce qu'on a demandé, c'est de ne pas être limité en termes de travail. C'est-à-dire que vous êtes limité parfois par les ressources parce que vous restez un club de national. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas s'interdire, c'est de travailler comme le très très haut niveau. Et moi, j'ai 8 personnes avec moi qui travaillent au quotidien. Et ça me permet de traiter beaucoup de choses dans ma journée, de me décharger aussi de certaines choses et de déléguer et d'être le plus précis possible dans l'accompagnement des joueurs dans la semaine d'entraînement.
Tu as choisi le métier d'entraîneur. Moi, quand je passais mes diplômes, j'étais avec pas mal d'anciens grands joueurs, notamment qui ont joué en équipe de France et tout. Et il y a un joueur qui m'a dit oh, moi, je vais pas faire entraîneur. Franchement, consultant, c'est le bon métier.
Et la planque.
Non, pas la planque, mais c'est le bon métier. Voilà, je me voyais pas entraîneur. Et quand on va pas se le cacher, quand t'as choisi le métier d'entraîneur, on s'est tous dit, et tu te l'es dit le premier, je pense. Waouh. Attention, parce que là,
je me suis vraiment pas dit.
Tu ne t'es pas dit, on va m'attendre au tournant.
Non, ça oui, mais ça de toute façon.
Mais est-ce que, ça, on le savait. Et ça, c'était ma question, donc tu viens de me répondre. Je me suis demandé, est-ce que tu t'es dit à un moment, est-ce que je vais rester bien au chaud? Parce que comme je dis souvent à Walid, nous on fait le Yaka Faucon ici, c'est très facile. Mais quand t'es dans
un club. Pas si facile que ça, Kevin, quand même.
Si, le Yaka Faucon, c'est très facile par rapport au métier d'entraîneur, qui est sûrement le métier de névrosé le plus compliqué dans le football, parce que c'est un métier, comme t'as dit, 24h/24, parce que là tu fais du 7h-17h, mais tu rentres chez toi, ça dure jusqu'à ce que tu t'endormes.
Ouais, peut-être des fois.
Même au réveil le matin, je pense, une première pensée, c'est
ça.
Voilà. Donc voilà, est-ce que tu t'es dit, donc, à un moment, bon, je vais peut-être rester consultant tranquillement au chaud plutôt que aller.
Non, pas du tout vraiment. Et en plus, en passant les diplômes en France, parce que j'avais l'opportunité de les passer à Cardiff et d'aller beaucoup plus vite dans le process de diplôme, je me suis dit c'est aussi une façon de montrer à tout le monde ma détermination et cette logique d'être presque de dire ah. Il s'est donné les moyens en France de passer tous les diplômes BEF,
pas facile,
TES,
pas facile
BEPF.
De passer les diplômes en France.
J'ai mis 4 ans à les avoir puisqu'en fait entre le DES et le BEPF ils m'ont empêché d'enchaîner. On nous a dit non, on pouvait pas y aller cette année. Il y avait eu le Covid et donc ils avaient bloqué l'année d'après. Donc j'ai dû attendre 1 an pour pouvoir passer mon BEPF. Mais je me suis jamais dit non, c'est un métier de fou parce que pour l'instant et j'ai entendu ce que vous disiez de Julien Stéphan. Pour moi, c'est ni un métier de névrosé. Ni un métier de fou.
Un petit peu quand même.
Non, parce qu'en
dans le bon sens.
La réalité, c'est qu'en fait, tous les entraîneurs font ce métier par passion.
Ça, c'est sûr.
Et si tu fais ce métier par choix, je pense que c'est difficile de vivre toutes les émotions de ce que représente ce métier. Oui, tu vis des choses qui sont une machine à laver parce qu'en fait, t'es dedans tout le temps, tu te lèves, tu penses à ça, tu te couches, tu penses à ça, par moments en pleine nuit, tu te réveilles, tu
et
penses
puis,
à
et
ça.
Puis, et puis l'après-défaite aussi, comment on vit ça? Les heures, ouais. Les jours qui suivent, parce après, que Habib, c'est long, c'est une semaine d'attente avant de pouvoir retravailler sur un match.
Après Habib, t'as pas eu encore la machine médiatique?
Non.
C'est-à-dire que sur le métier de névrosé notamment, je pense que ça en fait partie.
Mais il était quand même attendu au tournant.
Non, mais t'es attendu au tournant et par beaucoup. Mmh. Mais par rapport à ce qui pourrait se passer plus tard ou ce qui se passe pour un Julien Stéphan ou
l'environnement médiatique, tout ça,
ou un Lucien Riquet,
quand il sera à Marseille, c'est sûr que ce sera autre chose.
Voilà, ou un Galtier l'année dernière, etc. Je pense que le côté névrosé et le côté pression fait aussi que.
Je peux même pas en parler parce que je l'ai pas vécu.
Attends, avec le micro de. De Jennifer, tiens, tu peux appuyer ton bouton de Jennifer, vas-y. Vas-y. Non, faut que ce soit rouge. Voilà.
Ouais, c'est rouge. Ouais, non, je disais, ça fait partie complètement de la fonction d'entraîneur. Maintenant, si t'es pas capable de gérer la pression médiatique quand t'es dans un grand club, t'as rien à faire là, en fait. Et c'est dommage, un petit peu, parce que la fonction communicant, elle prend de plus en plus de place, mais t'es obligé de l'intégrer dans ta préparation, dans ton plan de carrière aussi.
Dans l'idée, on aime tous ça. En fait, c'est-à-dire que l'aspect névrosé et l'aspect métier de fou,
très prenant.
Au fond, je pense que c'est une logique de quand tu vas te faire tatouer, au début ça fait mal et puis en fait après tu t'habitues à la douleur de l'aiguille et en fait t'as envie d'y retourner. Et en fait la réalité de ce métier-là, c'est que plus tu le vis et plus t'as envie de te mettre dedans et plus t'as envie de ce côté un petit peu machine émotionnelle. Et comme tu le dis aujourd'hui, je suis qu'en national et donc
avec tout le respect
l'exposition. Non, mais attention, l'exposition médiatique n'est pas la même qu'un Julien Stéphan ou qu'un entraîneur de Ligue 1. Et donc j'ai pas connu encore ce moment-là, mais pour l'instant j'essaie de vivre ce métier-là avec une immense passion, une immense détermination, et j'ai pas l'impression de ressentir cette logique de névrosé. Par contre, l'année dernière, j'ai eu un moment au mois de mars où, ouais, tu sens que la charge de la pression d'une montée et la charge qui repose sur tes épaules, elle est importante, et t'as besoin de prendre soin de toi. On le dit pas assez, mais un entraîneur, s'il prend pas soin de lui au bout d'un moment, ça devient compliqué. T'as besoin de t'évader, t'as besoin de trouver des moments où tu sors de ce contexte pression, enjeu, objectif, équipe, pour que tu penses à autre chose, pour avoir la lucidité d'esprit et surtout la clarté un petit peu dans ton cerveau pour justement faire les bons choix, ouais, bien sûr.
Alors avant qu'on parle de ton avenir, Habib, c'est une des questions qu'on va te poser ce soir et que beaucoup se posent aussi. Il y a beaucoup de messages. Habib, viens à Marseille, on te veut à Marseille absolument. La pression sera pas la même, certes, mais ton cœur est marseillais. Justement, Kevin parlait tout à l'heure de ton travail de consultant également. Depuis 2013, t'es chez Canal+. Les émissions, les gros matchs de Ligue des Champions. Tiens, d'ailleurs, pas mal de supporters parisiens qui nous ont dit à RMC, dis-lui comment il commente les matchs du PSG. T'as ceux qui adorent Habib Bey en consultant, et puis t'as les Parisiens qui disent attends, c'est un Marseillais, c'est pas possible.
Bah ouais, mais pourtant, les Marseillais, ils disent que c'est un Parisien là, maintenant.
Ouais, maintenant les Marseillais me disent que je suis Parisien, et en fait je pense que j'essaye toujours d'être le plus juste possible, et vraiment en fait ce que les gens doivent comprendre, c'est que quand je commente le Paris Saint-Germain, il n'y a pas de logique d'être supporter de l'OM ou l'attachement à l'OM. En fait, j'ai pas cette. Par exemple, on a Eric Dimeco qui a décidé de ne pas commenter le Paris Saint-Germain parce qu'il dit que lui, par rapport à ce qu'il ressent, il aurait l'impression de pas être vrai. Moi, je ressens pas ça parce qu'en fait, au fond, quand je suis consultant, je suis pas supporter, je suis pas ennemi de qui que ce soit. Et en fait, c'est mon boulot et c'est surtout qu'en fait, mon objectif, c'est de faire partager une passion. On m'a reproché, par exemple, sur le match du Real, de dire c'est pour ça qu'on aime le football. Mais je suis désolé. Quand vous êtes dans le stade, être hermétique à ce qui se passe et à ce qu'on est en train de vivre, qu'on soit supporter du PSG, ennemi du PSG, vous commentez le but de Benzema avec là, oh là là, malheureusement, mais excusez-moi, vous faites pas correctement votre métier. Oui. Et ce jour-là, ce que je ressens, c'est que je me soucie pas de savoir qui marque. Je suis en train de vivre un moment hors norme de football, et comme vous le vivez devant votre télé, sauf que moi, je suis dans un stade où il y a 70 000 personnes, que j'ai tous les socios du Real qui sont là face à nous, et en fait, on vit un moment d'exception footballistique. Et moi, à ce moment-là, je me positionne ni comme celui qui doit commenter l'équipe française de Paris Saint-Germain, et c'est pas mon rôle. C'est peut-être le rôle du journaliste, mais c'est pas du tout le rôle d'un consultant. Donc, on peut nous reprocher plein de choses, mais moi, personnellement, je vais vous le dire, je serais très content, et j'ai pas peur de le dire, que le PSG gagne la Ligue des Champions pour deux raisons. La première, c'est que c'est une équipe française. Je suis ni pour le Barça, je suis ni pour le Real. La seule chose qui est, c'est que quand le PSG joue l'OM, tout le monde sait où est mon cœur, et tout le monde sait où est ma préférence. Mais par contre, d'aujourd'hui me dire que je suis un consultant qui n'aime pas le PSG, franchement, vraiment, écoutez les.
C'est un truc que t'entends, ça. C'est un truc que
oui, je l'entends. Oui, mais après, ça me pose après pas le, problème. Après, je suis pas là pour satisfaire.
Bien sûr.
Si tu rentres là-dedans, t'as pas fini. Franchement, le clubisme, on le connaît. Ça veut dire que quand tu dis un truc contre l'OM, t'es contre l'OM. Quand tu dis un truc contre Lyon, t'es contre Lyon. Ah, ça va, franchement.
En fait, si tu commentes les matchs comme ça, t'as pas fini. Aujourd'hui, à l'OM, ou mon détachement par rapport au Paris Saint-Germain. En fait, mon métier de consultant, il est fait pour transmettre la passion que moi je ressens au stade, avec le côté le plus pur possible. Et d'ailleurs, je vois que Julien Cazard s'en amuse. Mais la dernière fois, il le disait, il dit oui, t'as mis un blanc après le but de Kylian Mbappé. Oui, mais le rôle d'un consultant, c'est surtout de pas parler sur l'émotion du stade. C'est de parler après. Donc, c'est des petites choses qui font que, en tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à commenter les grands matchs parce que c'est aussi ma matière en tant qu'entraîneur.
Alors, c'est intéressant, ça, justement. Ouais. La question, c'est qu'est-ce que ça t'apporte? Vas-y,
mais Habib, par rapport à ton rôle de consultant, parce que tu l'as dit tout à l'heure, t'as pas une pression démesurée médiatiquement avec le Red Star au national. Par contre, ton rôle de consultant clive énormément. Je pense que tu as entendu ou tu as lu. Est-ce que il y en a beaucoup qui t'attendent au tournant par rapport à ça? Alors c'est ça, Habib Bey, il y a le consultant, le ton professoral, etc. Est-ce que ça t'a servi? Est-ce que ce rôle de consultant t'a servi dans ton rôle d'entraîneur? Est-ce qu'il t'a desservi? Est-ce qu'en termes d'image, tu ressens cette image-là? Est-ce que ça te met une pression? Est-ce que tu t'en fous royalement? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu regardes? Voilà, et moi ça m'intéresse, oui, ce côté-là, parce que aujourd'hui quand tu parles en bien d'Habib Bey, c'est ouais on verra bien, c'est de la nationale ou ouais d'accord, n'en faites pas trop. Il y a ce côté-là, et puis il y en a qui kiffent aussi, hein, mais globalement on sent qu'il y a une petite attente par rapport à ça, par rapport à ce que tu fais à Canal depuis longtemps.
En fait, pour moi, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que quand je suis consultant, je suis pas entraîneur, et quand je suis entraîneur, je suis pas du tout consultant. Les deux images ne peuvent pas aller ensemble. Après, que les gens fassent un rapport par rapport à ces prises de position, ces certitudes, ce côté un peu, on verra quand il prend une équipe. En fait, ça m'anime pas et j'y pense même pas. Je vais pas dire je m'en fous royalement parce que j'ai du respect pour les gens qui ont un avis, et les gens ont le droit d'avoir l'avis qu'ils veulent sur moi, sur ce qu'ils pensent de moi en tant que consultant, ce qu'ils pensent de moi en tant qu'entraîneur. Mais la réalité, c'est que t'as beaucoup de gens, et tu le vis aussi, Walid, t'as beaucoup de gens qui veulent déterminer ton avenir, ta trajectoire, ce que tu dois faire. J'ai des gens qui me disent pourquoi la double casquette, mais au fond, je vois pas ce que ça leur coûte dans leur vie. En fait, c'est des choix qu'on a personnels, et au fond, ces choix-là, on les assume. Si demain, ce métier de consultant m'amène à vivre un moment dans mon métier d'entraîneur qui sera difficile, et que, bah, comme tout entraîneur, je suis amené un jour à être mis de côté par un club, en fait, la réalité, c'est que ça va m'impacter moi. Ça n'impactera pas celui qui a un avis de...
Ouais, mais est-ce que tu penses pas que ça peut, à un moment donné, par rapport au club et aux décideurs et aux gens qui sont susceptibles de te nommer et de te proposer un job, se dire, il est pas, en fait, il est pas 100% dedans, il a cette double casquette. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir continuer à le faire longtemps?
Ah non, pas du tout. Mais ça, c'est quelque chose qui a été défini avec mon club, le Red Star, et qui n'existerait pas si demain Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, c'est impossible.
Ça veut dire que oui, de toute façon, t'arrêteras cette casquette-là de consultant.
Ouais, exactement.
Quand il arrive en Ligue 2.
En fait, mon contrat, il était en cours à Canal, et ce que j'avais défini avec le Red Star, c'était de dire je ne peux pas rompre un contrat que j'ai en cours, et surtout dans une chaîne, une maison avec qui j'ai beaucoup d'amitié, et surtout qui m'a fait confiance. Donc je continue. J'ai beaucoup réduit. Je fais que 15 prestations à l'année. Je fais que les matchs de Ligue des Champions. Je fais plus d'émissions. Je fais plus le CFC. Et en fait, ce que je dis aussi, c'est que les gens doivent comprendre une chose, c'est que la matière qu'un entraîneur a, jeune entraîneur comme moi, à aller commenter un Barcelone PSG, un Real City, un City Chelsea, ou ce que vous voulez, c'est énorme. Et les gens doivent comprendre que moi, quand je vais commenter des matchs comme ça,
je travaille en fait.
Je travaille. Et je prends des notes. Alors attention, je
discute avec les coachs.
Bien sûr, t'as des accès privilégiés de discuter avec des joueurs, d'échanger avec des coachs. Ça peut durer 5 minutes. Je vais te donner un exemple. J'ai discuté il y a 5 ans, 6 ans de ça avec Jurgen Klopp. Ça a duré 7 minutes. C'était un Leicester-Liverpool et Sadio Mané était à Liverpool. Et je vois Sadio à la fin du match. Et je dis à Sadio, alors comment ça se passe avec Jurgen Klopp? Et il le voit, il dit, boss, come. Et j'ai discuté 7 minutes avec lui. Tu te rends compte le privilège pour un jeune entraîneur en formation de pouvoir discuter 7 minutes avec Jurgen Klopp, qui est l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Ça, les gens ne le voient pas. Mais moi, c'est des choses que je quantifie aujourd'hui et qui sont pour moi un accès privilégié grâce à ce métier de consultant. Après, comme le dit Jennifer, on fera toujours ce rapport-là. Et bien sûr que plus tu vas monter de niveau... Et bien sûr,
quand tes commentaires seront scrutés,
non, mais c'est surtout
aussi.
Ça sera incompatible.
Et en plus, c'est incompatible.
Ça sera
en termes de rythme, bien
ça,
sûr.
Tout le monde le sait, Canal le sait, et moi je le sais.
J'ai une dernière question là-dessus.
Et on fait une pause.
Est-ce que, justement, par contre, dans l'autre sens, le fait de devenir entraîneur, ça a changé la façon dont tu étais consultant?
Oui, forcément, ça te fait évoluer. Ça te fait évoluer dans la difficulté. J'avais dit une phrase un jour, et elle avait été un peu prise de. Ah, il a trop d'ego. J'avais dit, l'avantage que tu as en tant que consultant, c'est que tu es le troisième entraîneur des deux entraîneurs qui sont sur le terrain. Mmh. C'est-à-dire que tu te positionnes, tu identifies les rapports de force, tu essaies de voir les solutions que peuvent apporter les entraîneurs. Et forcément, on a des avis tranchés. Si aujourd'hui, tu commandes que ce que tu vois,
on est d'accord.
C'est pas intéressant. Nous, on doit avoir à un moment donné de l'anticipation. Il va se passer ça. On doit se mouiller un petit peu. Par moment, on se trompe. Tous.
Les entraîneurs se trompent des fois.
Voilà. Et c'est ce que moi. Je vis et forcément ça m'a fait évoluer d'une dans mon métier d'entraîneur mais ça m'a fait évoluer aussi dans mon métier de consultant sur des scénarios, sur des choix d'entraîneur.
Des fois ici, Nico Jamin me disait depuis que t'as passé ton diplôme d'entraîneur, t'es moins dur avec les entraîneurs.
Ah oui, c'est dommage.
Mais non,
on va se poser la question, t'as double casquette aussi parce que
ça t'amène aussi.
Maintenant t'es DS maintenant, donc c'est encore pire.
Ça t'amène à une forme de réalité et quand. T'as vécu une situation, même si c'est pas le très haut niveau ou c'est pas la Ligue des Champions, quand t'as vécu une situation comme entraîneur, comme dirigeant ou quoi, ça te ramène aussi à une forme d'humilité, t'es obligé. Ou alors sinon, t'es pas honnête.
Tu connais la réalité. Pause, on revient dans un instant. La question de l'avenir, Habib Bayon, on va te la poser, Habib, tu le savais en venant ici, forcément, Red Star, ou ailleurs, en Ligue 2, en Ligue 1. Il y a une hype, Habib Bay, forcément, dans les médias et également dans certains clubs français. On va poser la question dans un instant. Habib avec Ouli Dacherchour, Kevin Diaz et Jennifer Madelevich. Vous écoutez RMC, c'est Génération After. À tout de suite.